votre. Que Dieu vous garde et vous bénisse dans votre vie. On va se mettre debout et on va lire les Saintes Écritures dans 1 Jean 3. 1 Jean 3, versets 1 et 2. Je vais vous lire dans la parole vivante de Alfred Kuhn. Voyez combien le Père nous aime. Il veut que nous soyons appelés enfants de Dieu. Plus que cela, nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous comprend pas et refuse de nous reconnaître. Il n'a pas non plus reconnu le Christ. Oui, mes chers, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Nous ne savons qu'une chose, lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui car nous le verrons alors tel qu'il est. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de bénir ta parole dans nos cœurs. Merci mon Dieu de bénir tout ce culte, que tout ce qui va se passer puisse être sous ta main. Merci Seigneur parce que tout esprit contraire est maintenant lié au nom de Jésus-Christ et précipité dans les ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière et nous vivons dans la lumière. Merci pour les anges qui nous accompagnent et qui nous gardent et nous inspirent. Merci Jésus. Amen. Je suis content de voir ici des arrière-grands-mères, des grands-mères, des grands-pères, des papas, des mamans, des fils, des filles, des oncles, des tantes, enfin toutes sortes de gens, les petits-enfants, l'anniversaire de Lucas, Titi, tout ça. Nous sommes présents pour rendre un culte à notre Dieu. Vous savez, chez les humains, chez les terriens, comme j'aime dire, eh bien, nous avons des titres. Papa, maman, tout ça, c'est des titres. Les titres que je viens de vous donner là, vous définissent dans le cadre familial qu'est le vôtre. Et puis nous avons aussi d'autres titres. Nous avons par exemple le titre de vendeur, vendeuse, secrétaire, professeur, hein, de toutes sortes de... C'est des titres qui vous définissent dans votre cadre professionnel. Ce sont des titres. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de 4 titres qui s'appliquent à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui sont enfants de Dieu. Nous avons lu, vous êtes enfants de Dieu. Non seulement vous avez le titre, hein, la Bible dit, Dieu veut que vous soyez appelés enfants de Dieu, mais non seulement cela, mais vous l'êtes. Vous avez le titre, enfants de Dieu, mais vous l'êtes. Alors maintenant, il y a 4 titres que je voudrais qu'on étudie un peu ce matin, pour que vous puissiez savoir réellement qui vous êtes aux yeux de Dieu. Ce sont des titres qui nous aident à reconnaître notre position dans le plan éternel de Dieu. Et ils nous aident aussi à reconnaître le potentiel de pouvoir de notre ministère de la réconciliation. Parce que ça, nous l'avons tous. Nous avons tous le pouvoir, le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire de pouvoir réconcilier les gens avec Dieu. Tous. Un titre qui nous définit tous. Nous avons tous ces 4 titres. De la manière la plus fondamentale qui soit, le premier de ces titres, c'est le titre de fils et fille de notre Père Céleste. Quoi que vous fassiez d'autre ici-bas, vendeur, contrôleur aux impôts, tout ce que vous faites, tous ces titres que vous avez, papa, grand-mère, tout ça, eh bien, il ne faut jamais oublier que vous êtes littéralement un fils et une fille de Dieu. C'est-à-dire fils et fille d'esprit. C'est un esprit qui vit dans un corps. On était déjà des enfants de Dieu avant de venir sur cette terre, parce que nos esprits existaient déjà avant que nous venions sur cette terre. Et nous avons été placés dans des corps, et puis maintenant, mais nous serons toujours des fils et des filles d'esprit de Dieu. Cette vérité fondamentale, ça nous aide à changer notre regard. Le regard que nous portons sur nous-mêmes, parce que des fois, on se dévalorise, ou alors sur nos frères et sœurs, parce que des fois, bon, ben, ils sont pas brillants, puis on se dit, oh, oh. Non, c'est un fils, c'est une fille de Dieu. Malheureusement, c'est vrai qu'aucun de nous n'est jamais exactement à la hauteur de ce que ce titre implique. Ça, c'est vrai. Parce que, la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui nous manque et qu'il faut qu'on atteigne. Alors, c'est pas qu'on n'est pas enfant de Dieu, mais il faut que nous croissions. Alors, des fois ça peut être décourageant de savoir que nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu, et de néanmoins ne pas être à la hauteur. Vous avez des gens qui se découragent. Et puis, je vais vous dire une chose, notre adversaire, le diable, il aime tirer parti de ce sentiment-là. Et vous savez, il préférerait que vous vous définissiez par vos péchés plutôt que vous vous définissiez par votre potentiel divin. Même une fois qu'on est converti, vous avez vu, quelqu'un se convertit, on dit, « Ah mais oui, tu sais, le frère untel, c'est un ancien alcoolique. » Paf ! Un titre. Non, c'est une nouvelle personne. Ras-le-bol, l'ancien alcoolique, c'est fini ça, c'est derrière, c'est passé. Et si on en parle, c'est juste pour glorifier Dieu, mais on n'identifie pas les gens comme ça. Vous comprenez mes frères et sœurs ? C'est important, c'est important. Si le diable cherche à vous identifier par vos péchés, vous définir par vos péchés, même par vos péchés passés qui ont été pardonnés ou vos péchés actuels que vous pouvez commettre par accident, eh bien ne l'écoutez pas. Vous n'êtes pas défini par vos péchés. Ici, nous avons tous vu des bébés qui apprennent à marcher, qui font leurs premiers pas. Moi, est-ce que vous vous rendez compte, je me rappelle encore quand j'ai fait mes premiers pas. Je me vois toujours dans ce couloir. Je vois ça un peu comme un film en noir et blanc. Mais je me vois encore dans cet immense couloir. Ça devait mesurer 3 mètres, mais vous savez, pour un bébé, c'était immense. Eh bien, quand un bébé fait ses premiers pas, il fait un pas, un petit, puis il vacille, et poum, il tombe sur son derrière. Est-ce que vous avez déjà vu des parents qui réprimandent cette tentative? Non, bien sûr que non. Quel genre de père, quel genre de mère punirait un bébé qui trébuche et qui tombe? Au contraire, qu'est-ce que fait le papa? Qu'est-ce que fait la maman? Eh bien, il encourage le bébé. Et moi, je me rappelle quand Mélodie s'est mise à marcher, puis que, poum, elle est tombée sur son derrière. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai applaudi, j'ai dit, poum, bravo, allez, on se met debout. Voilà ce que fait un vrai père, voilà ce que fait une vraie mère. Nous félicitons le bébé. Parce que nous savons que pas après pas, tentative après tentative, il va devenir davantage comme ses parents, c'est ça. Et frères et sœurs, en comparaison avec la perfection de Dieu, c'est vrai que nous sommes, nous, les mortels, pas plus que des bébés qui sont gauches, qui sont chancelants. Et notre Dieu, notre Père Céleste qui nous aime, il veut aussi que nous devenions exactement comme lui. Alors quand nous tombons, quand nous trébuchons, quand nous vacillons, il n'est pas en colère contre vous. Au contraire, il vous encourage à vous relever, à continuer, à dire « Allez, bravo, t'as fait un essai, maintenant, hop, debout !» Comme avec les bébés, parce que comparé à la grandeur, à la sainteté, à la beauté de Dieu, nous sommes encore que des bébés, peu importe si vous avez 30, 40, 50 ans de conversion. Vous n'êtes rien du tout par rapport à Dieu. C'est un bébé. Paul disait, je suis même pas un bébé, il disait, je suis un avorton. Ah, vous avez réalisé ça? Frères et sœurs, c'est aussi notre but, n'est-ce pas, de devenir comme notre Père Céleste. Devenir de plus en plus ressemblant à Jésus. On a un très beau chant qui le dit, « Ressembler Jésus ». Dieu comprend, c'est pas seulement qu'il sait, mais il comprend qu'on va pas y arriver en un instant. Il le sait. Dieu comprend que nous y arriverons en faisant un pas maladroit à la fois. Écoutez bien ça. Je ne crois pas en un Dieu qui émettrait des règles et des lois dans le but d'attendre qu'on échoue afin de pouvoir nous punir. Niaf, niaf, niaf. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Mais non, Dieu n'est pas comme ça. Je crois que notre Père Céleste, il nous aime. Et il est plein de sollicitude. Ah, le mot sollicitude. Moi, j'avais une idée de ce que ça pouvait bien pouvoir dire. Mais je me suis dit, je vais aller regarder dans un dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire exactement, sollicitude. Le mot sollicitude signifie attitude de soin attentif et affectueux. Eh bien, voilà notre Père Céleste, comment il est. Envers nous, il a une attitude de soin attentif et affectueux. N'est-ce pas magnifique? Comme un vrai papa, digne de ce nom, comme une vraie maman, digne de ce nom, ou une grand-mère, ou un grand-père, ou une arrière-grand-mère, et voilà. Des soins attentifs et affectueux. Notre Père Céleste, il se réjouit de chacun de nos efforts. Quand on tombe, il ne fait pas « Oh, encore !» Non. Non. Il aime nous regarder quand on fait des efforts pour essayer de se tenir droit, hein, pour aller vers lui, comme les bébés. Quand nous trébuchons, eh bien, il nous exhorte à ne pas perdre courage, à ne pas abandonner, mais au contraire, à prendre courage, à trouver la foi, pour continuer d'essayer encore et encore. Quand il nous voit faire des efforts de persévérance, Dieu, notre Père Céleste, nous envoie des anges même pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous protéger, pour nous... Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai, mes frères et sœurs. Voilà la vision que vous devez avoir de Dieu. Vous êtes ses enfants. Ce titre, vous l'avez. Plus que le titre, vous êtes réellement enfant de Dieu. Et si vous êtes des enfants, Dieu est votre Père. Il est un Père plus que normal. Vous avez vu, on a un président normal en France. Ah, ça vous fait rire. Notre Père est un bon Père céleste. Amen. Et voilà le titre suivant. Tous ceux qui s'efforcent à suivre Jésus sont appelés des disciples. Alors, bien sûr, nous savons qu'aucun de nous, nous ne sommes parfaits, aucun. Mais on n'utilise pas cette connaissance, ce savoir, le fait de savoir que nous ne sommes pas parfaits, pour nous excuser afin d'être moins exigeants. On est honnête. On dit oui, on n'est pas parfait. Mais on dit pas, ah ben je fais ça parce que je suis pas parfait. Non, on est honnête. Nous ne cherchons pas à nous excuser de ne pas pouvoir devenir de meilleurs disciples. C'est faux. On peut toujours devenir de meilleurs disciples. On ne cherche pas des excuses. Dans notre communauté rétablie par Jésus-Christ, eh bien, cette communauté-là, elle n'est pas là pour des hommes et des femmes qui sont parfaits. Il n'y a aucun d'entre nous qui n'est parfait. Cette communauté n'existe pas pour ceux qui ne sont pas concernés par la tentation. Nous sommes dans la condition mortelle. Et nous sommes encore tentables. Cette église rétablie, selon les Écritures, cette communauté, elle est là pour des gens exactement comme vous et moi. Cette église, elle est édifiée sur la révélation de Jésus-Christ, notre Rédempteur, c'est vrai. Son sacrifice à la croix nous ouvre les portes pour que nous puissions être mis à part, ce qui signifie être sanctifié. Mais ça, c'est un mot religieux. Dieu nous a ouvert la porte afin de nous mettre à part, de nous faire passer dans une autre dimension, pour devenir des citoyens du ciel. Pour le moment, nous sommes dans la condition mortelle, mais nous sommes en devenir des citoyens du ciel. Et sans ce que Jésus a fait à notre place sur la croix, l'existence sur cette terre, mes frères et sœurs, c'est une impasse. Sans espoir, sans avenir, ça n'a pas de sens. Par contre, Jésus sur la croix a expié, la Bible dit, il a expié. Malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas, même les chrétiens. Si je demande là, vous allez me donner, je vous donne à chacun un bout de papier, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est expié? Ça va être vague. Le mot expié signifie, ça signifie seulement ça, hein, réparer nos fautes en subissant une peine imposée. C'est-à-dire que nous avons fauté, et nous pouvons réparer en subissant une peine qui nous est imposée. Par exemple, si Lucas fait une bêtise, eh bien, on va lui imposer une peine, et cette peine, après une fois qu'il l'aura fait, une fois qu'il aura été châtié, eh bien, on dira, voilà, maintenant c'est expié, c'est réparé, c'est fini, il n'y a plus rien. Cette peine, c'était la peine de mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'était la loi. Et il a subi, Jésus a subi ce châtiment, cette peine, à notre place. Il est mort à notre place. Sans ce sacrifice, nous serions légalement des condamnés à mort. C'est lui qui a été condamné à notre place, il a payé à notre place, et c'est ça l'expiation. C'est ça que ça signifie, expiation. Alors, grâce à l'expiation, grâce à ce que Jésus a fait à la croix à notre place, la vie, ça devient un parcours anoblissant. Pas désespérant. Anoblissant. C'est-à-dire que nous sommes des gens anoblis. Vous savez ce que c'est être anobli? Ça devient, la vie devient un parcours inspirant de progression, de développement qui conduit à la vie éternelle en présence de notre Père. C'est un parcours anoblissant, inspirant, de progression, de développement. Voilà ce que c'est la vie aujourd'hui. Alors, l'expiation a pour but de nous rendre semblables à Jésus. C'est juste ce qui nous donne la possibilité de rentrer dans cette possibilité de devenir semblable à Jésus-Christ. Elle n'a pas le but de nous rendre tous identiques. Alors, de grâce, ne confondez pas les différences de personnalité avec le péché. Une personne qui est différente de vous ne déplaît pas forcément à Dieu. La communauté, elle ne cherche pas, l'Église de Jésus-Christ ne cherche pas à façonner tous les disciples sur un moule unique. Pas du tout. Chacun ne reçoit pas, ne ressent pas, ne pense pas, ne se comporte pas comme tous les autres. Moi, je me rappelle, quand je suis allé la première fois en Afrique, à Ouagadougou, on était dans une réunion, là, le soir, et il y a eu tellement de guérisons, tellement de miracles, les gens étaient contents, alors ils se sont mis à danser. J'ai fait un petit film, moi-même, j'étais pris dans cette ambiance, et je dansais avec eux, et puis j'ai fait un petit film des gens qui dansent dehors, dans la nuit, avec quelques néons tremblotants. Et puis quand je suis rentré en France et que j'ai montré ça à des blancs, il y en a qui m'ont dit « Mais c'est du vaudou !» Parce que c'est pas comme eux. Mais c'est pas parce que c'est pas comme vous que c'est du diable. Parce que Dieu veut pas qu'on soit tous identiques. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères et sœurs? Nous, Dieu ne nous façonne pas pour qu'on soit tous identiques. Dans son plan, Dieu a voulu que chaque frère soit différent des autres frères, que chaque sœur soit différente. Même les enfants sont différents de leur père et de leur mère. Même des jumeaux identiques ne sont pas tout à fait dans leur personnalité identique. C'est pas vrai. Mon frère Francis, dans sa famille des jumeaux, il me dit, il y en a un qui était faible, il y en a un qui était fort. Même qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes unis dans notre témoignage de qui est Dieu et de qui nous sommes. Nous sommes ses enfants. Mais nous sommes riches et nous sommes prospères parce que dans l'Église de Jésus-Christ, nous encourageons chacun à cultiver ses propres talents, ses propres différences pour fortifier et édifier les frères, les sœurs et toute la communauté. Frères et sœurs, être disciple, c'est une affaire de toute une vie qui passe. À suivre le Maître, à suivre le Sauveur. Jésus dit, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Mais ça, c'est que le début. C'est pas parce qu'on a fait ça une fois il y a 40 ans qu'on est disciple, non. C'est le début. Puis après, il y a toute la vie. Et sur notre chemin, eh bien, on a beaucoup d'occasions d'abandonner la route. Est-ce que vous n'avez pas trouvé que des fois sur le chemin de votre vie, vous avez trouvé des occasions d'abandonner? Parfois, il nous semble que le chemin, Jésus a dit « Je suis le chemin », parfois, il nous semble que le chemin, il nous demande plus qu'on croyait, que ce qu'on avait imaginé, ou d'autres choses que ce qu'on avait imaginé. On s'était fait un cinéma, voilà, ça va faire comme ça, puis voilà, d'un coup, on s'aperçoit que non. Alors, on est découragé. Mais en tant que disciple de Jésus-Christ, on va chercher le courage pour suivre Jésus selon les Écritures, même quand il semble que notre croix est vraiment trop lourde à porter ou injuste. Et à chaque pas qu'on fait pour suivre le Seigneur, il faut qu'on se souvienne que nous ne sommes pas encore parfaits, on n'a fait qu'un pas. Puis après on en fait un deuxième, puis après on en fait un troisième et on marche, et c'est pas à pas. Mais jamais on n'est encore parfait. Alors, soyez des disciples fermes, des disciples constants, qui n'abandonnent pas, qui sont fidèles à leurs alliances. Soyez fidèles à vos alliances que vous avez passées avec Dieu et avec l'Église. Ne perdez pas de vue votre avocat qui plaide sans cesse en votre faveur. Pendant que vous êtes en chemin, un chemin qui mène jusqu'à lui, un pas imparfait après un autre pas imparfait. Mais n'oubliez pas que vous avez un avocat qui plaide en votre faveur, qui parle en votre faveur au Père. C'est lui qui vous trouve des excuses. Vous avez juste dire, Seigneur, j'ai péché. Et lui, il va se débrouiller. Quand vous avez un avocat et que vous avez fait quelque chose de mal, vous prenez un avocat, et bien vous n'allez pas demander pardon à l'avocat. Vous lui avouez tout ce que vous avez fait, puis lui, après, il va se débrouiller avec les juges. Non? Et bien c'est ça. Confessez vos péchés, c'est-à-dire dites vos péchés à Dieu, ne lui demandez pas de vous pardonner. Il l'a déjà fait. Alors vous avouez à Jésus vos transgressions, puis après, lui, il va plaider. Il va baratiner le Père. Il va vous trouver toutes les excuses et tout ce qui. Oui, mais tu sais, il y a des gènes, rappelle-toi, son père et sa mère. Il va trouver tout ce qu'il faut pour attendrir le cœur du père. Et puis en fin de compte, même si le père est vraiment en rogne, il va dire, oui, mais attends, et oh, quand même, souviens-toi, j'ai versé mon sang pour lui. Ah oui, c'est vrai. Vous comprenez? Ne vous découragez pas, ne vous découragez pas. Mes frères et sœurs, si nous sommes véritablement des véritables disciples de Jésus-Christ, alors nous portons un troisième titre, le titre de guérisseur d'âme. C'est notre travail à tous d'exercer l'art de la guérison. C'est notre travail d'édifier, de réparer, de fortifier, d'encourager les gens, de les guérir. Notre tâche, c'est de suivre notre modèle Jésus-Christ et de tendre la main aux gens qui souffrent, de pleurer avec ceux qui pleurent et de rigoler avec ceux qui rigolent, de consoler ceux qui ont besoin de consolation. C'est ce que Jésus faisait. Nous sommes appelés à ça. On n'est pas appelés à être des gens qui rendent les autres malades. On n'est pas appelés à être ceux qui foutent des coups de poignard dans le dos, hein. On est appelés à guérir, au contraire. On est des guérisseurs de l'âme. Nous sommes appelés à fortifier les mains languissantes. Nous sommes appelés à fortifier les genoux qui chancellent, à aider encore et encore. En tant que parents chrétiens, nous sommes des guérisseurs, guérisseurs de nos enfants. En tant que ministres de la réconciliation, nous sommes des guérisseurs. Parce que quand on présente quelqu'un à Jésus, eh bien, on l'emmène à la guérison. En tant que fils, en tant que fille, en tant que frère, en tant que sœur, nous sommes des guérisseurs. Alors, nous devons être des guérisseurs engagés et dévoués. Pas simplement dire, j'ai le titre. Dans une main, nous avons l'huile d'onction pour bénir les malades, et dans l'autre, nous avons du pain pour donner à manger aux affamés. Est-ce que c'est là ce que nous faisons dans notre communauté? Oui, mes frères et sœurs. Et dans notre cœur, nous portons la parole de Dieu qui guérit les autres, qui guérit les âmes meurtries. C'est là notre première responsabilité. Être un guérisseur d'âme. Mes frères et sœurs, le rétablissement de toute chose dans l'Église de Jésus-Christ n'est pas seulement une bénédiction pour celui qui croit, c'est surtout une bénédiction pour celui qui vit ce rétablissement, qui entre dans ce processus du rétablissement. L'Église entière est rétablie, c'est-à-dire remise dans sa position où elle était au début. Mais rétablir, ça veut dire aussi guérir. Bon rétablissement, dit-on à quelqu'un qui est malade, non? Eh bien, nous devons entrer dans cette guérison, entrer dans ce rétablissement, vivre ce rétablissement, pas simplement dire, ah, nous avons une doctrine qui est différente des autres parce que rétablis ça dans notre église. Mais bon, moi, je fais quoi avec? Rien, mais c'est bon, c'est quand même bien. Nous, on croit ça. C'est bien de croire, mais encore faut-il le vivre. Jésus, il est l'auteur des miracles. C'est lui le grand guérisseur. Alors, il est notre exemple. Il nous montre le chemin et il nous demande de suivre ce chemin. Soyons donc à la hauteur de notre rôle. On a un rôle à jouer. Devenons véritablement des guérisseurs qui servent Dieu, qui servent notre prochain. Maintenant, le quatrième titre que nous partageons tous, que nous avons tous, nous ramène au premier titre que je vous ai donné. En tant que fils et filles de Dieu, fils de notre Père céleste, nous sommes héritiers de tout ce qu'il a. Je vous ai parlé de ça il n'y a pas longtemps. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. N'est-ce pas ce qui est écrit? Oui. Mais ensuite, il dit, si toutefois, il y a une condition, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Il souffre encore. Il souffre encore. Et nous devons souffrir avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Pensez-y, mes frères et sœurs. Nous sommes co-héritiers avec Christ. On a de la peine même à imaginer de quoi on va hériter quand nous aurons quitté notre enveloppe charnelle. Mais c'est une chose merveilleuse, je le pressens, je le pressens. Alors, comment se fait-il que, sachant cela, beaucoup d'entre nous consacrent ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leur temps, leurs pensées, leurs moyens, leur énergie à la poursuite du prestige ou de la richesse ou simplement pour s'amuser avec des gadgets électroniques? Comment se fait-il qu'ils gaspillent ce qu'ils ont de plus précieux pour ça? Frères et sœurs, le Seigneur dit, tous ceux qui magnifient leur appel à me suivre me reçoivent. Et ceux qui me reçoivent, reçoivent le Père. C'est pourquoi tout ce que mon Père a leur sera donné. Ça, je paraphrase ce que Jésus a dit, mais c'est ce qu'il a dit. Frères et sœurs, cette promesse divine mérite qu'on y mette tous nos efforts. Sachant ces choses, comment ne pouvons-nous pas nous engager de bon cœur au service de Dieu, au service de notre prochain, être à la hauteur des responsabilités que le Seigneur nous a confiées? Ce travail est le plus noble. Je vous disais tout à l'heure, ce chemin est anoblissant. Oui, il est anoblissant, si toutefois. Et il va mobiliser toutes vos capacités. Alors, il faut que nous nous engagions encore davantage dans cette grande œuvre, dans cette cause qui est bien plus grande que nous. J'étais content d'entendre cette confession de mon frère Olivier qui dit « Je vais aller en Afrique avec Michel et Francis pour aller apporter le talent que j'ai. Moi, je ne peux pas jouer de la guitare comme ça et chanter. Même si j'apprends, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas le talent que Dieu m'a donné. » Mais lui, il le fait très bien, puis non seulement, mais il prêche aussi. Amen. C'est bien dans cette grande cause qui est bien plus grande que nous, mes frères et sœurs. C'est bien plus grand que nous. Alors ne nous décourageons pas. C'est vrai que c'est plus grand que nous, c'est plus saint que nous. Mais si on n'y va pas, qui ira? Ce service pour Dieu et notre prochain va transformer chacune de vos personnes. Vous allez être transformé en quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez même croire possible. En beaucoup plus grand. Peut-être que vous vous dites qu'on n'a pas besoin de vous. Peut-être que vous dites que vous êtes insignifiant. Peut-être que vous dites que vous êtes indésirable. Peut-être que vous dites « je suis personne ». Je serais vraiment, sincèrement, désolé si quelqu'un ici ou à la télé ou sur Internet croyait cette sorte de choses-là. Mes frères et sœurs, il ne fait aucun doute que vous n'êtes ni insignifiant ni indésirable pour notre Père Céleste. Dieu vous aime. Et je vous dis avec certitude, mes frères et sœurs, que notre communauté a besoin de vous. L'Église a besoin de vous. Savez-vous pas que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages? Et que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes? Ne vous souvenez-vous pas de ça? C'est peut-être vrai que nous sommes faibles. C'est peut-être vrai que vous n'êtes pas sages, que vous n'êtes pas puissants. C'est peut-être vrai. Mais quand Dieu agit au travers de vous, il n'y a rien ni personne qui peut s'opposer à vous. Laissez Dieu agir en vous. Faites-lui confiance. Croyez que les titres que vous avez, ce n'est pas seulement des étiquettes, c'est une réalité à vivre. C'est pour ça que nous avons besoin de vous. Vous avez votre propre contribution spéciale à apporter. Et Dieu peut magnifier ça immensément. Mais que voulez-vous qu'il magnifie s'il n'y a rien? Magnifier zéro, c'est toujours zéro. Votre capacité personnelle d'apporter une contribution ne dépend pas de l'appel que vous avez dans l'Église. Parce que vos occasions de servir Dieu et de servir votre prochain sont infinies. Ces occasions sont infinies. Si vous êtes en train de faire tapisserie, vous savez ce que ça veut dire faire tapisserie? Levez-vous et entrez dans la danse. Vous savez ce que c'est faire tapisserie? C'est être assis pendant que tout le monde danse, puis être là comme ça, il n'y a personne qui vous invite. Mais n'attendez pas qu'on vous invite, allez-y et dansez! N'attendez pas un appel, ni de Dieu, ni de personne. L'appel, il est dans les Écritures, allez par tout le monde. Prêchez, servez, guérissez, bénissez, ressuscitez, faites-le! Vous pouvez le faire. Et si vous le faites, Dieu va magnifier ça. Et vous allez transformer en quelque chose que vous n'arrivez même pas à imaginer. En tant que né de nouveau, vous êtes déjà appelé à l'œuvre dans les Écritures. Alors étudiez chaque jour la parole de Dieu. Priez chaque jour votre Père Céleste. Et une communion avec lui. Imprégnez-vous. Vendredi, je vous parlais de s'imprégner. Imprégnez-vous chaque jour des principes de l'évangile qui a été rétabli maintenant dans notre église. Rendez grâce à Dieu, demandez-lui de vous guider et témoignez de qui vous êtes et de qui est le Père éternel. Témoignez de cela dans votre famille, premièrement, et puis dans votre profession, et partout, dans toutes les situations de votre vie. Vous savez, là, bientôt, avec Michou, on va aller écouter un concert symphonique en Corse. Eh bien, dans la symphonie du grand compositeur de notre Dieu, qui est le grand compositeur de cette immense symphonie de l'univers, vous avez votre partie à jouer. Vous avez vos notes à chanter. Si vous ne jouez pas vos notes, si vous ne chantez pas vos notes, mais là, c'est un fait que la symphonie va continuer. Bien sûr, ça va continuer. Mais vous, si vous vous levez, si vous permettez à l'Esprit de Dieu d'œuvrer au travers de vous, alors vous verrez s'ouvrir les écluses des cieux et vous verrez venir sur vous la bénédiction en abondance. Parce que si tu t'occupes des choses du royaume de Dieu, c'est-à-dire si tu entres dans la fonction que sont tes titres, alors Dieu va s'occuper de tes affaires, la bénédiction va être sur toi, les cieux vont s'ouvrir sur toi et cette bénédiction va venir. N'attends pas d'être appelé, fais-le et tu vas voir. Montrez-vous à la hauteur. Tu dis, je suis pas à la hauteur. Manque de foi. Tu es à la hauteur. Simplement, tu n'as encore rien fait. Fais-le! Et tu vas voir. Montrez-vous à la hauteur de votre véritable potentiel de fils et de fille de Dieu. Et vous pourrez être une force bénéfique dans votre famille, dans votre pays et jusqu'aux extrémités du monde. Une force bénéfique. Tu peux être une force bénéfique. En perdant votre vie dans le service pour Dieu et de votre prochain, eh bien, vous allez progresser dans votre approche de Dieu, de votre Père éternel. Vous allez progresser dans votre ressemblance avec lui. Et vous vous développerez jusqu'à atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ, tel que c'est écrit. Alors vous serez prêt là à hériter. Tant que vous êtes en chemin, tant que vous êtes en train de marcher dans cette obéissance, tant que vous avez foi dans ces choses que je vous dis, alors vous êtes prêt à hériter avec Jésus-Christ de tout ce que le Père a. Frères et sœurs, vous êtes importants. Vous êtes aimés. On a besoin de vous. Ce que nous faisons ici est juste. Et je prie qu'en méditant sur ces quatre titres que je vous ai donnés, qui sont les vôtres, en tant que personne née de nouveau, vous ressentiez le Saint-Esprit souffler sur vous et vous pousser vers le haut, vers le grand héritage que votre Père Céleste a en réserve pour vous. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Jésus, pendant que les musiciens s'approchent, je te prie que ces choses que j'ai dites ce matin aident mes frères et sœurs qui sont un peu découragés ou qui ne savent plus très bien où ils en sont à avoir la lumière et à marcher selon cette lumière, et qu'ils puissent ainsi te glorifier jour après jour, en faisant des petits pas maladroits, en tombant sur leur gros derrière de temps en temps, mais en se relevant, sachant que tu es là et que tu applaudis leurs efforts constants et renouvelés. Merci Jésus de bénir chacun d'entre nous, de donner à chacun d'entre nous une intelligence renouvelée pour que nous ayons un nouveau départ, une nouvelle façon de nous comporter, que ton nom soit glorifié dans nos vies et dans la vie de chacun de ceux qui écoutent ce message aujourd'hui.